avoir une armée puissante, parce que une armée, surtout dans les années 50-60, ça représentait un danger de coup d'État. Mais l'autre aspect, c'est que les Américains ne les sacrifieront jamais. Enfin, on ne voit pas pourquoi les Américains les sacrifieraient. Il n'y aura pas une alliance, même s'il y a un accord entre l'Iran et l'Arabie saoudite, il n'y aura pas d'alliance stratégique aujourd'hui, tant que le régime iranien est en place, entre les États-Unis et l'Iran.
Est-ce que ça change les choses pour Israël, ça? Parce que le grand Satan iranien, s'il s'allie avec les États-Unis, enfin s'il y a des relations, des réchauffements avec les États-Unis, ça change un peu la donne pour Israël.
C'est tout à fait important. C'est-à-dire un élément intéressant de nos politiques américaines. C'est-à-dire que sur une question comme le rapprochement avec l'Iran, sur lequel le président Obama a décidé qu'elle était stratégique pour les États-Unis, le lobby pro-israélien qui a essayé d'empêcher ça a été incapable de l'empêcher. Ce qui montre quand même aussi les limites de ce lobby pro-israélien et de sa force sur les décisions américaines. Donc le gouvernement israélien est très inquiet de ce rapprochement parce qu'il semble, enfin pour l'instant en tous les cas, les négociations se déroulent dans un climat très positif et il semble que ça avance. Et évidemment, si ça avance, ça enlève aux Israéliens une carte importante qui est de dire « mais on ne peut pas faire la paix parce qu'il y a le nucléaire iranien qui nous menace ». Donc effectivement, ça change quelque chose, mais ça ne changera pas non plus l'alliance stratégique qu'il y a entre Israël et les États-Unis, qui évidemment transcende complètement Obama et Netanyahou, qui est une alliance qui s'est forgée maintenant depuis 50 ans et qui ne sera pas remise en cause. Mais là aussi, où il y a des points de friction. C'est-à-dire sur, par exemple, l'échec des négociations de paix, si on peut les appeler comme ça, entre Israël et Palestine, les Américains ont plutôt tendance à dire que les deux sont responsables, mais Israël un peu plus. Donc il peut y avoir des tensions, mais ça ne veut pas dire qu'il peut y avoir une remise en cause de cette alliance.
Est-ce qu'il y a une question avec le pétrole, le gaz de schiste? Les États-Unis développent le gaz de schiste chez eux.
Le pétrole aujourd'hui, c'est pas simplement la production, c'est la question des prix. S'il y avait une crise, c'est-à-dire si les pays comme l'Arabie saoudite s'effondraient, on aurait un baril à 200 ou 300 dollars. D'autre part, le contrôle par les Américains du Proche-Orient, c'est aussi une manière d'assurer à leurs alliés japonais et européens qu'ils ont accès au pétrole. Et donc, c'est un moyen de pression sur leurs alliés japonais et américains. Donc, c'est vrai que le gaz de schiste va donner une plus grande autonomie énergétique aux États-Unis, mais je ne pense pas qu'elle va amener à un changement. Il y a un auteur américain qui, il y a 5-6 ans, a appelé, les Américains disent « the Middle East », le Moyen-Orient. Et lui, il disait « the middle of nowhere », c'est le milieu de rien. Il disait, quand on regarde la région en termes de production, en dehors du pétrole, il n'y a rien. Et de ce point de vue, l'Asie est beaucoup plus attractive pour les États-Unis comme pour l'Europe que le Proche-Orient. Il y a quelqu'un aussi qui disait, oui, nous avons décidé que nous allions basculer vers l'Asie, mais le département d'État, quand on voit la liste des crises qu'il a à résoudre, elles sont pratiques, à part la Corée, elles sont toutes au Proche-Orient. Et il est obligé, d'une manière ou d'une autre, que ce soit la Syrie, la Palestine, la Libye, etc., de s'impliquer. Donc en termes de mobilisation de l'appareil diplomatique américain, l'essentiel reste sur le Proche-Orient et à mon avis, il le restera.
Alain Grèche, un dernier mot. Là, tout à l'heure, on a parlé de ce papier en première page du Diplo sur l'universalisme. Je prends juste le titre, l'universalisme, une arme pour la gauche. Et vous dites, je ne suis pas du tout d'accord avec ce papier.
Non,
c'est assez rare hein, que...
Non, mais bah, écoutez, ça
prouve pourquoi.
Bon, c'est une attaque contre les thèses postcoloniales qui charrient des choses extrêmement différentes, mais qui ont apporté, à travers la critique de l'orientalisme, une critique d'une forme d'universalisme qui était à la fois un universalisme européen et qui voyait dans l'Europe et les États-Unis un peu l'avenir du monde, c'est-à-dire que les pays étaient sous-développés signifiant qu'ils devaient petit à petit se conformer à l'exemple européen. Le postcolonialisme a critiqué ça, et contrairement à ce que dit l'auteur, il n'a pas remis en cause la tradition marxiste. C'est-à-dire, il essaye d'allier, et ce qui est toujours très difficile, une vision marxiste, notamment avec le développement d'un capitalisme mondial, et de la mondialisation, ce qu'elle change, et aussi quelque chose qui est de l'étude des structures locales. Un des auteurs raconte, par exemple, que dans les années 50, les penseurs marxistes en Inde, essayer absolument de plaquer les théories de Marx